Bienvenue dans l'accent des autres, l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. C'est comme chaque semaine avec la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada, la RTBF et France Inter. Et on va d'abord évoquer aujourd'hui l'entre-deux-tours en France, la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle qui bat son plein. Elle oppose, comme il y a 5 ans, le président sortant Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Une affiche inacceptable pour de plus en plus d'étudiants français, Karine Bécard.
Oui, plusieurs blocages d'écoles ou d'universités ont été votés cette semaine. C'est le cas à la Sorbonne à Paris, par exemple, à l'ENS aussi, l'école normale supérieure, ou encore à Sciences Po Nancy, des jeunes qui refusent de choisir entre une candidate facho et un candidat pas assez écolo.
Au Canada, à présent, Benoît Audet, un pas supplémentaire vient d'être fait dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les autorités annoncent de nouvelles aides.
Oui, Ottawa a annoncé le déploiement d'une centaine de soldats en Pologne pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.
Sur le continent africain, nous irons en République démocratique du Congo avec vous, Nicolas Sûr. D'anciens chefs de guerre, retenus en otage depuis 2 mois par un groupe armé, ont été libérés.
Oui, il s'agit de Thomas Lubanga et Floribert Njabu qui avaient été envoyés dans la province de Lito pour négocier avec cette milice.
Il va être question du droit pénal sexuel en Suisse avec vous, Pierre Anchoffat. La question du consentement dans la définition du viol divise le Parlement helvétique.
Non, c'est non, ou seul un oui est un oui. Deux variantes pour définir l'infraction de viol. Il en résulte un poids différent sur les épaules de la victime.
Enfin, nous nous quitterons au sein de l'univers carcéral en Belgique. Sophie Brems, on a reparlé cette semaine de l'état des prisons et notamment de la qualité des soins médicaux en prison.
Oui, après la mort d'un détenu fin de l'année dernière à la prison de Nivelles, c'est en Wallonie, l'Observatoire international des prisons s'interroge et dénonce l'absence de réponse des autorités.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Bienvenue à vous dans l'accent des autres. L'affiche Macron-Le Pen de ce deuxième tour de la présidentielle en France met donc en colère une partie de la jeunesse, avec un mouvement qui a pris forme au sein de certains lycées, de certaines universités. Plusieurs sites sont perturbés ou ont été perturbés par des jeunes qui n'ont pas envie de choisir entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national. Deux candidats qui ne leur correspondent pas. C'est un reportage réalisé mercredi dernier à la Sorbonne par Agathe Mahuet.
Des conserves, des bananes livrées par la fenêtre.
Pour le goûter.
Car toutes les portes de l'université sont bloquées depuis l'après-midi. 500 étudiants ont voté l'occupation en colère face au duel Macron-Le Pen.
La radicalité néolibérale ou la radicalité fasciste, faut choisir. Et c'est horrible.
Julien soutient donc le mouvement qui émerge. Mais d'autres râlent un peu contre la méthode à quelques jours des partiels. Leur fac évacuée, il a fallu faire cours d'anglais tout à l'heure dans un bistrot.
Du coup, on a pu se discuter et boire un petit café.
Allez,
soudain, une porte s'ouvre, enfin.
Tu rentres ou tu rentres pas ?
Dans l'amphi plein à craquer, les assemblées générales s'enchaînent.
Aussi.
L'annulation des cours est décidée au moins jusqu'à lundi, le fait de dormir sur place aussi. Et au cœur du mouvement, cette question, comment se positionner quand on a 20 ans et qu'on a voté Mélenchon au premier tour ?
Faire barrage à Le Pen, quoi, en gros. Ou ne pas du tout voter. Et donc ça, c'est aussi la grande question qui est en train de se formuler ici.
En attendant, le dîner s'organise.
C'est le distributeur qui a été tournevissé.
Voilà, on a ouvert le distributeur, on donne à tout le monde, partagé.
Certains rêve d'occuper la fac jusqu'au 24 avril. De son côté, la Sorbonne annonce, vu les événements, qu'elle restera fermée ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre.
Reportage donc réalisé mercredi dernier par France Inter à la Sorbonne. Après une journée d'occupation, les étudiants qui occupaient la Sorbonne ont finalement quitté l'université jeudi soir, mais les collectifs à l'origine des blocages appellent à des manifestations. Des soldats canadiens envoyés en Pologne après avoir annoncé une aide militaire à l'Ukraine, après avoir appuyé une série de sanctions à l'encontre de la Russie. Le Canada annonce donc cette semaine l'envoi de soldats aux frontières de l'OTAN. Leur mission, donner un coup de main aux réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays. Benoît, que vont faire plus concrètement ces soldats canadiens ?
Ils vont travailler dans des centres d'accueil de réfugiés en Pologne. Ils vont entre autres aider les gens qui apportent des soins aux réfugiés. Ils vont aussi venir en aide aux soldats polonais qui ont mis sur pied une force opérationnelle d'aide humanitaire.
Oui, les soldats canadiens vont aussi participer aux efforts d'immigration des Ukrainiens au Canada.
Le Canada a déjà commencé à recevoir des réfugiés ukrainiens sur son territoire. Ottawa a instauré un programme qui donne accès à ces réfugiés à un processus accéléré pour venir s'établir au Canada pendant 2 ans. Jusqu'à maintenant, Ottawa dit avoir reçu 110 000 demandes d'immigration de la part de réfugiés ukrainiens. De ce nombre, 30 000 ont été acceptées.
Et ce nouvel engagement du Canada est le dernier d'une série d'annonces depuis le début de la guerre en Ukraine, Benoît.
Oui, dans le budget fédéral déposé la semaine dernière, Ottawa s'était engagé à verser une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine. Le gouvernement fédéral avait déjà annoncé un montant de 110 millions de dollars pour équiper les forces armées ukrainiennes en armes létales et non létales. Le Canada s'est résolument rangé derrière l'Ukraine depuis le début du conflit. Au cours des dernières années, le Canada avait aussi participé à la formation de soldats ukrainiens après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
Oui, et à propos de l'Ukraine, on notera que la Suisse vient de durcir ses sanctions contre la Russie, Pierron.
Oui, le gouvernement a en fait repris le 5e paquet de sanctions européennes. Interdiction d'importer de Russie du charbon, du ciment ou encore de la vodka. Interdiction d'exporter du kérosène et divers produits chimiques susceptibles de renforcer les capacités industrielles de la Russie. Une attitude ferme alors que le ministère russe des Affaires étrangères venait de critiquer le gouvernement suisse par ces mots. Nous espérons que pour vous, l'inviolabilité de la neutralité ne se limite pas à de belles paroles. Fin de citation.
Ils étaient détenus depuis 2 mois par la milice Codeco qui sème la terreur dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 2 émissaires envoyés par le président congolais Tshisekedi et 2 officiers de l'armée ont retrouvé la liberté cette semaine, Nicolas.
Oui, des négociations étaient en cours, mais selon une source qui a tenu à garder l'anonymat, les 4 otages sont parvenus à fausser compagnie à leurs ravisseurs. Ils ont été retrouvés dans la brousse après plusieurs kilomètres de marche à pied. Tous faisaient partie d'une délégation envoyée en Ituri par le président de la République pour négocier un cessez-le-feu avec la Codeco, un groupe armé empreint de mysticisme qui sème la terreur dans cette province de l'extrême nord-est du Congo, proche de la frontière avec l'Ouganda et placée sous état d'urgence. Début février, les 8 membres de cette mission avaient été pris en otage pendant des pourparlers, car les miliciens reprochaient à l'armée d'avoir bombardé la zone durant la réunion.
Et plusieurs des ex-otages sont eux-mêmes d'anciens chefs de guerre.
Oui, des chefs de milice qui connaissent très bien l'Ituri et pour cause, ils s'y sont livrés à des combats meurtriers au début des années 2000 alors que la province était déjà à feu et à sang. Germain Katanga, libéré il y a déjà quelques semaines, Floribert Djabou et surtout Thomas Lubanga, connu pour avoir été le premier condamné de la Cour pénale internationale. Il avait été reconnu coupable de recrutement d'enfants soldats. On ne sait pas encore, après cette prise d'otage, si leur médiation pourra reprendre.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
En Suisse, on discute de la réforme du droit pénal sexuel. La définition du viol est en débat, Pierron, et cette semaine, le gouvernement a salué l'abandon de la notion de contrainte.
Il faut dire que notre droit pénal a une vision restrictive du viol. Seule la pénétration vaginale non consentie d'une femme par un homme est reconnue. Même si la jurisprudence du tribunal fédéral a admis dans certains cas un état de sidération pour expliquer l'absence de réaction de la victime, le code pénal postule encore sa résistance et donc la contrainte physique de l'agresseur.
Ce projet, il élargit la définition du viol et réduit la pression qui pèse sur les épaules de la victime.
Exactement. D'abord, le viol d'un homme sera reconnu. Ensuite, on effacera la notion de contrainte et le code définira une gradation dans les infractions. Le viol sous contrainte et le viol avec cruauté. Ce dernier serait puni d'au moins 3 ans de prison jusqu'à un maximum de 20 ans.
Voilà pour ce qui semble donc acquis. Reste, Pierron, la notion de consentement qui fait débat.
La majorité parlementaire et le gouvernement veulent s'en tenir au refus de la victime. Non, c'est non, alors qu'une minorité plaide pour le consentement explicite. Seul un oui est un oui. L'écologiste Céline Vara explique pourquoi, avec l'exemple d'une jeune femme qui n'a pas su dire non.
Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Mais tu aurais dû ! Tu aurais dû lui dire non. Pourquoi tu ne lui as pas dit non? Et paf, toute la responsabilité est sur ses épaules. Alors que si on va avec la solution du oui, c'est oui, eh bien on change totalement de discours. La question, ce sera, est-ce qu'il t'a posé la question ? Si tu voulais cet acte sexuel. Donc on voit bien là vraiment que la pression, elle repose vraiment sur les épaules du prévenu, si on veut bien, de la personne qui a imposé l'acte sexuel.
Le libéral radical Philippe Bauer craint précisément ce renversement du fardeau de la preuve.
On est là pour s'occuper d'un certain nombre de personnes qui se prétendent victimes d'un viol et on est là pour s'occuper d'un certain nombre de personnes qui sont prévenues d'un viol. Et ces personnes-là, on doit leur assurer une sécurité juridique et pas simplement se contenter de propos lénifiants, de « oui, c'est oui », alors qu'on sera confronté exactement au même problème. Est-ce que vous souhaitiez cet acte à caractère sexuel ou est-ce que vous le refusiez ?
Selon un sondage commandé cette semaine par la section suisse d'Amnesty International. La majorité défend ce « oui, c'est oui » pour mieux protéger les victimes. Le Parlement, lui, tranchera en juin.
Et en attendant, en Belgique, Sophie, le Parlement a déjà tranché. La réforme du droit pénal sexuel est sur les rails.
Oui, cette réforme a été votée à la Chambre le mois dernier. Et là aussi, la notion de consentement est centrale. Le consentement n'est jamais présumé et il peut être retiré à tout moment. On notera aussi que la Belgique a décriminalisé la prostitution. Les professionnels du sexe sont aujourd'hui considérés comme des travailleuses et des travailleurs comme les autres.
On va rester en Belgique pour se quitter avec vous, Sophie, parce que l'état des prisons est une nouvelle fois pointé du doigt. Ces prisons sont dans un état déplorable à tous les niveaux. Bien sûr, ça n'est pas neuf, mais le débat est revenu sur la table après le décès d'un détenu à Nivelles, en région wallonne.
Un décès qui remonte à la fin de l'année dernière et qui pose la question de l'accompagnement médical dans les prisons. Ce détenu serait resté sans soins pendant une nuit, malgré des appels à l'aide de son co-détenu. Un médecin légiste a finalement conclu à une mort naturelle. Mais manifestement, le cadre médical est insuffisant dans les prisons belges. En tout cas, par moment, ça a été le cas à la prison de Mons. Son directeur explique qu'il a été confronté à un manque de médecins.
Aujourd'hui, il y en a assez, mais pendant plusieurs semaines, trois mois, pendant deux ou trois jours par semaine, il n'y avait pas de médecin. Or, la loi implique qu'il y ait un médecin une fois par jour dans la prison.
Mais donc ça, c'est un problème.
Mais évidemment que c'est un problème. Mais il a été résolu aussi. J'ai appelé à l'aide, j'ai dit à l'administration, attention, voilà où on en est. Ils ont tenté de trouver des médecins, il a fallu du temps, mais on l'a trouvé. Oui, il peut y avoir des manques au niveau des soins de santé.
Voilà, manque au niveau des soins de santé, ça a été dénoncé par l'Observatoire international des prisons. Et puis, manque aussi plus largement dans les prisons belges, Sophie.
Oui, et ça fait des années que le constat est le même. Surpopulation, manque de personnel, manque de moyens, vétusté, voire carrément insalubrité. Les conditions de détention sont déplorables partout. Les détenus sont bien trop nombreux et même si de nouvelles prisons sont en construction, c'est toujours trop tard, comme l'explique encore le directeur de la prison de Mons.
En 2017, j'ai participé à un colloque où on m'a fait annoncer environ 1000 places pour 2022. Il n'y en a pas une qui est ouverte. Donc on sait que les délais sont toujours beaucoup trop longs.
Des délais trop longs qui n'empêchent pas la Belgique de s'interroger sur la place et le sens de la prison, sur les alternatives également à l'incarcération.
Merci Sophie Brems pour la RTBF et merci à tous ceux qui ont participé à l'Accent des Autres, comme chaque semaine, les partenaires des médias francophones publics que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Je vous fixe rendez-vous si vous le souhaitez pour un nouvel Accent des Autres la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.